Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la sainteté. Aujourd'hui, nous arrivons à l'étude numéro 8. Ce sera un peu spécial. Le titre sera « Les saints et la débauche ». Chers amis, j'ai fait cette série de CD pour vous redonner espoir au sujet de la sainteté et non pas pour vous accabler. Or, lorsque nous nous apprêtons à pactiser avec le monde et à accepter certains compromis, nous avons besoin de convictions. Nous devons entreprendre la tâche difficile d'inspecter nos vies à la recherche des domaines où nous sommes décalés par rapport à l'Écriture sainte. Je n'ai pas l'intention de vous rabaisser, mais plutôt de vous élever à la hauteur des standards de Dieu pour que vous puissiez faire sa volonté et vivre selon sa sainte parole. Cette étude traite de la débauche. Oui, de la débauche comme son titre l'indique. Vous le savez et vous le voyez, l'immoralité sexuelle est un énorme problème dans ce monde. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que nous vivons dans une culture saturée de sexe. Le sexe est absolument partout, dans les magasins, dans les chansons, dans les sports, sur les panneaux d'affichage, sur la plage, dans les films, sur YouTube, à la télévision, sur votre iPhone, dans les centres commerciaux, et dans les catalogues, dans les revues automobiles même, et à peu près partout où vous posez les regards. Cependant, ce CD ne traite pas de la culture du monde, mais il traite de notre culture actuelle, de ce que les chrétiens font, de ce qu'ils voient, et de tout ce qu'ils font et voient sans même s'en rendre compte. Dans l'Ancien Testament, lorsque un bon roi était choisi pour régner sur Israël et sur Juda, il débarrassait le pays de toutes les idoles et de toutes les fausses religions. Et cela plaisait beaucoup à Yahvé l'Éternel. Cependant, même sous le règne de certains bons rois, malgré tout le progrès accompli, les hauts lieux ne disparaissaient point. Notez 1 roi, chapitre 15, verset 14, chapitre 22, verset 43, notez 2 rois, chapitre 12, verset 3, chapitre 14, verset 4, chapitre 15, verset 4 et le verset 35. Chers amis, la débauche est l'un de nos hauts lieux. J'ai peur que nous, et ce « je », « moi » est inclus dans le « nous », que nous n'ayons pas les yeux pour voir à quel point le monde nous a pressés dans ce terrible moule. Si nous pouvions faire revenir des chrétiens de presque tous les siècles passés et de n'importe quel pays occidental, eh bien je crois que ce qui les surprendrait le plus, mis à part le très grand nombre d'habitants que nous sommes maintenant, c'est à quel point les chrétiens sont à l'aise avec l'impureté sexuelle. Cela ne nous surprend absolument pas, ne nous dérange pas et ne trouble pas même notre conscience. En fait, à moins d'être vraiment grave, l'impureté sexuelle semble tout à fait normale, étant une façon de vivre comme une autre et souvent un simple divertissement. Cette réalité, elle est loin de la vision biblique du péché sexuel. Lorsque l'apôtre Paul énumère les comportements qui ne sont pas dignes des chrétiens, s'il vous plaît, notez Romains chapitre 1, verset 24, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, Galates chapitre 5, verset 19, Éphésiens chapitre 5, verset 3, et Colossiens chapitre 3, verset 5. En passant des ténèbres à la lumière, l'une des premières choses que devaient accepter les nouveaux convertis parmi les païens, c'était une éthique sexuelle totalement différente. Commençons par lire deux passages et voir à quel point les standards de Dieu en ce qui concerne la sexualité sont beaucoup plus élevés que ce que nous pourrions croire, et voir de quelle manière la doctrine de l'union avec Jésus-Christ peut s'avérer beaucoup plus utile que nous le pensons. Commençons, s'il vous plaît, par 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 20. Verset 12, il est là dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Verset 13, « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » Notez verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Chers amis, l'idée principale de ce passage se trouve au verset 18 où il est dit « Fuyez la débauche ». Et cela soulève une question. Qu'est-ce que la débauche? Eh bien, le mot utilisé par l'apôtre Paul, c'est le mot le plus employé dans le Nouveau Testament pour désigner le péché sexuel. C'est pornaïa. Cela fait référence à une catégorie plus large de péchés sexuels et cela englobe bien plus que l'adultère. Notez Saint Matthieu, chapitre 5, verset 32. L'apôtre Paul fait donc référence à une variété de pratiques sexuelles illicites, incluant l'adultère, la fornication, la prostitution et l'homosexualité. Dans l'Ancien Testament, ce mot apparaît pour désigner toute pratique sexuelle à l'extérieur du mariage entre un homme et une femme, inédite par la Torah. Et je dis pas seulement inédite, mais absolument interdite par la Torah. Donc la façon la plus simple de comprendre tout ce que englobe le mot pornaïa est de penser à tous les comportements et les actes qui vous rendraient furieux ou furieuse si votre mari ou votre femme les pratiquait avec une autre personne. Cela ne vous dérangerait pas si quelqu'un faisait une accolade amicale à votre mari, vous ne seriez pas choqué. Se faire la bise sur la joue, non plus. Toutefois, vous seriez furieux d'apprendre qu'un homme a couché avec votre femme, qu'il l'a vue toute nue, ou qu'il a touché certaines parties intimes de son corps. Vous auriez certainement le cœur brisé d'apprendre qu'une femme a eu une liaison avec votre mari, qu'ils se sont échangés des mots doux et même des caresses. Pourquoi? Oui, pourquoi? Eh bien, toutes ces activités conviennent seulement à un couple marié, mais deviennent absolument déplacées lorsqu'elles sont pratiquées à l'extérieur de l'union sacrée du mariage entre un homme et une femme. Toute activité sexuelle pratiquée entre ceux qui ne sont pas mariés, entre deux hommes, entre deux femmes, entre plus de deux personnes, entre des membres même d'une même famille ou entre des gens mariés à une autre personne. Et tout cela est un péché et fait partie des interdictions absolues. Voilà donc les choses que nous devons fuir. Fuir comme nous l'a commandé l'apôtre Paul. Ne donnez pas raison au péché sexuel, contentez-vous de fuir. Faites comme Joseph en son temps. N'y trempez même pas l'orteil. Ne cherchez pas à en voir davantage. N'en faites pas l'expérience. Ne mettez pas votre décision à l'épreuve. Et ne jouez pas avec le feu. Fuyez tout simplement. Nous sommes appelés à éviter les erreurs de l'insensé qui est décrit dans les Proverbes, chapitre 7. C'était un homme exceptionnel, Samson, qui s'est intéressé, hélas, à la débauche. Et qui a écouté le chant de la sirène, qui l'a suivi dans la ville, et qui a même fini par perdre sa vie. Dieu ne nous demande pas de nous familiariser avec la débauche grâce au cinéma, la télévision et nos téléphones intelligents pour nous intégrer à notre société. Il nous commande de nous en éloigner. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul donne la réplique au slogan favori des Corinthiens. Il semble qu'ils aimaient affirmer que tout leur était simplement permis. Ils étaient fiers de leur liberté chrétienne. Toutefois, l'apôtre Paul explique que même les libertés ne sont pas des libertés si elles nous rendent esclaves. Pour ce qui concerne les zones grises de la vie chrétienne, nous ne devons pas nous contenter de chercher un verset précis qui condamne chaque pratique. Nous devons nous poser des questions beaucoup plus vastes, comme celles qui sont suscitées au verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 6. Nous devons nous demander, par exemple, si la masturbation nous aide à glorifier Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Une femme a reconnu, puis elle n'était même pas très jeune, qu'elle ne pouvait pas se passer de la masturbation. J'ai cru que c'était seulement une affaire d'homme. Mais non, il paraît que maintenant, c'est aussi une affaire des femmes. Ça évolue pas dans le bon sens, évidemment. L'accent que met l'apôtre Paul sur notre identification à Jésus-Christ est particulièrement instructif, de même que stimulant et prometteur. De nos jours, il est répandu de croire que notre corps nous appartient. On dit, « Oh, personne ne me dira ce que je dois faire de mon corps. Personne. C'est mon corps. J'en fais ce que je veux. » En fait, dans notre société, rien n'est plus essentiel à notre identité en tant qu'être humain que notre liberté d'expression sexuelle, ainsi que la liberté d'utiliser notre corps comme bon nous semble. Cependant, Dieu dit que notre corps est à lui, non pas à nous. Ah ah ! Voyez-vous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Et nous sommes les membres de Jésus-Christ, verset 15. Le corps ne sert plus à notre satisfaction personnelle, mais il sert à la glorification de Dieu, verset 20. Nous avons été rachetés à un très grand prix, et nous appartenons maintenant à Jésus-Christ. Cela peut donner l'impression que nous sommes asservis. Maintenant, je dois donc faire ce que Dieu veut. Il est bien vrai que aimer Dieu, cela sous-entend de garder ses commandements, me semble-t-il. Toutefois, appartenir à Jésus-Christ, cela est synonyme de liberté et non pas d'esclavage, comme on nous le fait croire. Ne croyez donc pas que le christianisme consiste à devoir accomplir les moindres désirs d'un Dieu très grincheux. Mais voyez plutôt le christianisme comme le fait de pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande. Grâce à notre union avec Jésus-Christ, Nous avons donc plein pouvoir pour être saints. Nous sommes libres de vouloir devenir saints ou pas. Le même Dieu qui a ressuscité Jésus des morts vous ressuscitera afin que vous viviez pour le Seigneur et non pas pour les plaisirs de la chair. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 13 et 14. Ça, c'est l'un des cadeaux que nous recevons lorsque nous sommes unis à Jésus-Christ. L'union avec Jésus-Christ, cela signifie que la puissance de Dieu travaille en nous et par nous. Voyez-vous, l'union avec Christ est également synonyme de responsabilité morale. Notez, s'il vous plaît, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. L'apôtre Paul s'y exprime avec beaucoup de prudence, mais son argument est plutôt étonnant. Puisque nous appartenons à Christ, nous sommes les membres de son corps. Ainsi, lorsque vous commettez un acte de débauche, qu'il s'agisse de prostitution, d'adultère, de relations sexuelles hors mariage ou de tout autre péché sexuel, c'est comme si les membres de Christ se livraient à la débauche. Pour le dire sans aucun ménagement, si vous couchez avec une prostituée, eh bien, croyez-le ou pas, vous traînez Jésus dans son lit. Moi, ça me donne beaucoup à réfléchir. Lorsque vous placez votre foi en Jésus, vous ne formez plus qu'un esprit avec lui, selon le verset 17. Lorsque vous placez vos organes sexuels là où il ne devrait pas être, eh bien vous placez le Seigneur Jésus là où il ne devrait pas être non plus. Voyez-vous, si vous ne pouvez imaginer Jésus-Christ avec une prostituée, Jésus-Christ en train de regarder de la pornographie, ou Jésus-Christ qui couche à droite et à gauche, eh bien, vous ne devriez pas vous imaginer faire de telles choses non plus. Car vous appartenez maintenant à Jésus-Christ. Plus encore, vous êtes unis à Christ. Si son corps est pur, eh bien, le vôtre doit l'être tout autant. Chers amis, la sainteté dans un monde qui s'envoie en l'air, ça va être difficile pour certains. Avant d'aborder le deuxième passage, revenons à la définition de pornaïa et essayons de l'appliquer à un domaine de la vie chrétienne qui fait l'objet de polémiques, telles que les fréquentations. Je vais me précipiter là où les anges ont, eux, peur de s'aventurer et tenter de répondre à la grande question qui revient continuellement. Où puis-je tracer les limites? Premièrement, le but principal de toute relation, c'est de glorifier Dieu et non de nous approcher le plus possible du péché. Nous ne sommes pas des minimalistes du salut, cherchant simplement à nous en tirer à bon compte, mais nous voulons savoir comment aborder le mariage d'une manière qui plaît vraiment entièrement à Dieu notre Papa céleste. Je n'ai jamais entendu un couple chrétien dire qu'il regrettait beaucoup tout ce qu'ils n'ont pas pu faire avant le mariage. Deuxièmement, et c'est ce que beaucoup de croyants trouveront totalement opposé à notre culture, vous devriez traiter tous les chrétiens à qui vous n'êtes pas mariés comme s'ils étaient simplement vos frères et vos sœurs en Christ. C'est aussi le point avancé par Gerald Hiestand et Jay Thomas dans leur livre très pratique « Sex, Dating and Relationship », c'est-à-dire le sexe, les fréquentations et les relations. Ils soutiennent que tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas mariés, nous devrions considérer les membres du sexe opposé comme nous le ferions dans un contexte familial. C'était d'ailleurs l'approche de l'apôtre Paul quand il a dit « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » 1 Timothée, chapitre 5, versets 1 et 2. Ainsi, jeune homme célibataire, à quoi ressemble la pureté envers ta sœur? Coucheriez-vous avec elle? L'embrasseriez-vous passionnément sur tout son corps? Seriez-vous allongé dans le même lit? Non, 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 pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle est votre sœur. Eh bien, vous avez maintenant un standard de pureté envers les sœurs spirituelles dans votre vie. À tous les chrétiens qui ne sont pas mariés, voici donc la règle générale. Ne faites pas avec un homme ou une femme ce que vous ne feriez pas avec votre frère ou avec votre sœur. C'est aussi simple que ça. Chers amis, chaque activité sexuelle hors mariage, même lorsque s'arrête juste avant une expression sexuelle qui serait plus intense, eh bien, elle dépasse les bornes. Elle dépasse les bornes de l'éthique sexuelle de la Sainte Bible. Donc, une telle activité est non seulement un péché, mais elle mène également à une frustration sexuelle et émotionnelle qui, à son tour, entraîne une tentation encore plus grande. Toutes les conditions sont alors réunies pour vous inciter à livrer vos membres comme esclaves à l'impureté et pour arriver à l'iniquité. Notez Romains chapitre 6, verset 19. Pensez de nouveau à la définition de pornaïa. La débauche inclut toute activité sexuelle pratiquée à l'extérieur du mariage entre un homme et une femme. Cela inclut toute activité qui vous scandaliserait si elle était pratiquée par votre mari ou par votre femme ou un membre de votre famille avec une autre personne. Pourtant, beaucoup de chrétiens ne voient absolument aucun mal à pratiquer la plupart de ces péchés. Non, non, ça ne les dérange pas. Vous n'auriez pas de relation sexuelle, me semble-t-il, avec un étranger, ni avec un ami, mais vous auriez des relations sexuelles avec la personne que vous fréquentez. Chers amis, quelle est alors la différence? Vous dites, eh bien, nous sommes engagés l'un vers l'autre, alors qu'en réalité, vous ne l'êtes absolument pas. Voyez-vous, les couples qui se fréquentent, ils peuvent rompre à tout moment, et dans notre culture actuelle, cela est possible même après s'être fiancé, et ce, sans la moindre obligation. Le deuxième passage, notez Éphésiens chapitre 5, depuis le verset 3 jusqu'au verset 12. Là, cela présente un défi aussi grand que le premier, oui. Écoutez ça, verset 3. On a dit Éphésiens 5, verset 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4. Qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Donc, chers amis, nous voyons dans ce passage que la débauche est incompatible avec la vie dans le royaume. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Les gens qui s'adonnent sans réserve ni repentance au péché sexuel ainsi qu'à la convoitise, ils n'iront jamais au ciel. Remarquez que l'apôtre Paul ne se contente pas de nous dire d'éviter de faire ces choses. La sainte parole de Dieu a un standard beaucoup plus élevé que cela. La débauche, l'impureté et la cupidité, spécialement dans ce contexte, le désir insatiable du corps d'une autre personne, ne doivent même pas être nommés parmi nous. Chers amis, Éphésiens chapitre 5, verset 4 dénonce donc les paroles grossières et les propos insensés et équivoques. Le message d'Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 12 nous interpelle tous. Quelle est donc son incidence sur ce qui nous fait rire, sur ce que nous portons? Quel est l'impact de ces versets sur nos choix, les émissions de télévision ou les films que nous regardons pour nous divertir, ou les publicités de bière durant chaque pause de chaque compétition sportive? Pouvons-nous vraiment justifier toutes les allusions, tous les secrets honteux qui sont révélés au grand jour et tous les péchés sexuels présentés comme étant totalement normaux, attirants et même très amusants? Il paraît que les femmes qui portent des jeans ou des pantalons avec des trous où on voit le genou, donc c'est bien un trou vers les genoux, il paraît que cela représente quelque chose que j'ose même pas vous dire sur ce CD. Tellement que c'est honteux. Et en ville de Genève, par exemple, quand je prends le bus ou le tram, j'en vois des quantités. Ou quand je vais à la poste pour faire un paiement. Oui, c'est une chose de décrire le mal. Et je ne dis pas que toute œuvre littéraire ou cinématographique devrait éviter le sujet du péché, mais nombreux sont quand même les films, nombreux sont les émissions de télévision, les livres, les pièces de théâtre ou musicales qui sont réfléchis parfois et même de bon goût. Et le péché est cependant quand même présent, et cela dans la plupart de tout cela. Ce n'est pas le péché en tant que tel qui constitue le problème. La Sainte Bible est remplie de récits d'immoralité flagrante. Il serait simpliste et moralement indéfendable, même antibiblique, de dire que nous péchons en voyant le péché, en lisant au sujet du péché. Mais toutefois, la Sainte Bible ne plaisante jamais, à tout cas jamais beaucoup, et je plaisante, hein, lorsqu'elle décrit le péché. Elle ne dresse jamais le portrait du vice en utilisant les couleurs de la vertu. Elle ne se sert pas du mal pour nous divertir, sauf pour s'en moquer. La Sainte Bible ne joue pas avec notre conscience en dépeignant le péché comme étant totalement normal et la justice comme étant étrange. Nous devons considérer d'un œil critique tout ce que nous plaçons sous nos yeux. Voyez-vous, si un couple était en train maintenant de faire l'amour sur un canapé en face de vous ou sur un siège dans le train, et ça se fait, paraît-il. Vous associeriez-vous pour les regarder simplement? Non, 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 car ce serait pervers. Ce serait ce qu'on appelle du voyeurisme. Où est donc la différence lorsque une telle scène est d'abord filmée et que vous la regardez ensuite, calmement? Pour être honnête, nous cherchons souvent à être exposés à la débauche et à la tentation pour ce qu'on appelle un moment de détente soi-disant inoffensif. Dans son commentaire sur Éphésiens chapitre 5, verset 3, Peter O'Brien soulève qu'en tant que chrétien, nous devrions non seulement éviter toute forme de débauche, mais aussi éviter d'y penser et d'en parler. Même nos gestes devrait être pur, de peur d'avoir un esprit mal tourné qui tient des propos vulgaires. Si, comme Aubryant le fait remarquer, parler et penser au sujet des péchés sexuels, cela crée une atmosphère dans laquelle ils sont tolérés et encourageants, ainsi on encourage leur pratique. Et je crois que c'est bel et bien vrai. Voici ce que raconte un jeune homme d'une école biblique. Écoutez bien. Il dit « Je me souviens d'une soirée lors d'un séminaire où plusieurs d'entre nous étaient rassemblés pour regarder le troisième film de la série d'Indiana Jones, celui sur le Saint Graal. Or, dans cet épisode, Indiana Jones, Harrison Ford en réalité, se bat contre les méchants avec son père, Sean Connery. À un moment donné dans l'histoire, le docteur Jones surprend tout le monde avec une réplique qui révèle que lui et son fils venaient tout juste coucher avec la même femme nazie. C'était censé être une scène comique, et la plupart d'entre nous, hommes et femmes, ont simplement ri à gorge déployée, et ça se passe dans une école biblique. Toutefois, un étudiant respectable, un peu plus âgé que les autres, a fait appel au groupe et il leur a dit « Mes amis, il s'agit ici de fornication et même d'inceste. Ce n'est vraiment pas drôle du tout. Et je crois que la plupart des personnes dans la pièce ont été plutôt agacées par un tel sermon. Cependant, plus je réfléchis à cet incident, plus je me range du côté de cet étudiant-là, car il avait tout à fait raison, car un fils et son père qui se livrent à la fornication avec la même femme, eh bien ce genre d'immoralité n'était pas du tout toléré, même par les païens à l'époque de l'apôtre Paul. Notez 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Il a dit aux Corinthiens de s'affliger d'une telle chose. Verset 2. Or, malgré tout, toute l'équipe de l'école biblique a ri. Mes amis, nous devons nous montrer beaucoup plus vigilants tant que nos enfants qu'avec nos familles, notre compte Facebook, nos textos, nos suites, nos yeux et notre cœur. Sommes-nous différents de la société dans laquelle nous vivons? Avons-nous fait la paix de façon superficielle avec nous-mêmes en disant « Nous ne ferons pas ce que vous faites. Nous ne serons pas aussi sensuels que vous l'êtes. Mais c'est avec joie que nous vous regardons faire toutes ces choses à notre place. Pourquoi pas ?» Eh bien, voyez-vous, ce genre de choses que l'apôtre Paul ne mentionnerait même pas, le genre de péché au sujet duquel il n'oserait même pas plaisanter, les comportements trop honteux pour être nommés. Mor, nous, nous en entendons parler dans presque toutes les comédies, à la télévision, etc., etc. C'est un attachement aux choses du monde qui est présent partout, partout dans la vie chrétienne. Essayez donc d'éteindre votre téléviseur et de ne plus regarder de films pendant un mois, afin de voir quelles seront les choses nouvelles que vous remarquerez à votre retour. J'ai bien peur que la plupart d'entre nous aient développé une immunité totale contre le poison que nous buvons. En ce qui a trait à la débauche, le péché semble normal, la justice est plutôt étrange, et il n'y a pas grand-chose qui nous différencie des autres. Entre parenthèses, avant que j'oublie de vous le dire, vous pouvez trouver sur Internet www.bibleexplique.ch toute une série d'études sur les prophéties des derniers temps et le chiffre 666. Eh bien, figurez-vous que pas plus tard que ce matin, nous sommes, sauf erreur, en février 2018. Eh bien, pas plus tard que ce matin, chez le dentiste, deux des dentistes m'ont raconté que dans environ 2 à 3 ans, leur métier serait fichu, foutu, comme celui des taxis, puisque les automobiles seront autonomes, sans chauffeur. Eh bien, il paraît que déjà maintenant, au Japon et en Chine, ce sont des robots qui vous soignent les dents, fraisez donc ou remplacez une dent, etc. C'est des robots. Donc, ils seront tous au chômage. Et des experts autour d'une table de la télévision après les nouvelles de 20 heures en France ont raconté. Des experts, des scientifiques, que dans peu de temps, il y aurait environ 800 millions, vous avez bien entendu, pas 8 millions, 800 millions de gens, hommes et femmes, qui seront au chômage parce que la robotique va être tellement rapidement partout que déjà maintenant, il y a des usines qui fonctionne entièrement avec des robots. Il y aura des robots partout. En plus, l'intelligence artificielle se développe à une vitesse fulgurante et même on peut implanter dans le cerveau un plus pour avoir plus, 10 fois plus de connaissances. De l'intelligence, par l'intelligence artificielle implantée dans votre cerveau. Tout cela confirme que l'Antéchrist n'est pas loin. En plus, vous pouvez vous renseigner, il y a maintenant des pays entiers qui n'ont plus d'eau. L'eau que nous buvons, il n'y en a plus. La sécheresse augmente partout, d'une vitesse fulgurante. J'ai lu dans un vieux livre, The Old Fashioned Book, The Holy Bible, j'ai lu dans ce vieux livre quelque part que dans les derniers temps, la température sera telle que les humains blasphémeront contre Dieu. Et déjà maintenant, dans certaines régions d'Australie, il y a 50 degrés. C'est pas moi qui vous le dis, vous pouvez tout ça vous renseigner. C'est pas de très bon augure tout cela. Mais retournons à notre étude. Les différentes identités sont donc très claires et sont mises en opposition dans Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 12. C'est-à-dire, les fils de la rébellion et les enfants des ténèbres méditent et pratiquent la débauche. Leur conduite est impure, car ils sont impurs. Par leur nature, les fils des ténèbres font des actes honteux dans le noir, mais en tant que chrétiens, nous sommes des enfants de lumière. Nous appartenons à Christ et notre place est dans le royaume de Dieu. Nous sommes des saints déclarés purs en Christ et sanctifiés par son Esprit Saint. Non seulement la débauche nous nuit, mais elle n'a pas sa place parmi nous. Elle est malséante. Alors nous avons peut-être autrefois été ténèbres, en tout cas moi, mais nous sommes maintenant lumière dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Pourquoi donc retourner en arrière dans les ténèbres de la sensualité et de la perversion? Ce n'est tout simplement pas ce que nous sommes. Et je sais qu'il est facile de tomber dans le dogmatisme lorsque on traite de sujets que la Sainte Bible n'aborde pas directement, comme les films, la musique, les fréquentations ou la tenue vestimentaire. Il va sans dire que les bons chrétiens feront des choix personnels différents. Je ne veux pas rabaisser la réalité de la liberté du chrétien et du rôle de sa conscience. Cependant, si vous êtes en Christ, eh bien prenez le temps de remettre en question votre conscience pour vous assurer qu'elle fonctionne encore correctement. Le monde n'est pas notre ami dans notre lutte pour la pureté sexuelle. Jour après jour, nous inhalons un air qui est rempli de sexe. Nous sommes bombardés d'images de sexe et nous sommes poussés à croire que le sexe est ce qui nous définit. Le sexe est vendu dans les billetteries, dans les centres commerciaux, à 1000 endroits différents et de 1000 façons différentes, et même certains chrétiens qui se gardent jusqu'au mariage ou qui ont un partenaire à qui confier leur lutte sont de fidèles consommateurs en cachette de pornographie sur Internet. La débauche, elle est visible partout, et trop peu de ceux qui ont la pensée de Christ se donnent la peine de fermer les yeux. Chers amis, avant de terminer cette étude, je crois que nous sommes beaucoup trop à l'aise avec la sensualité et le péché sexuel. Beaucoup de chrétiens ont besoin donc d'être réveillés. Certains chrétiens se sentent systématiquement souillés, corrompus et sans aucun espoir. Si mes paroles ont été blessantes, c'est parce que mon plus grand désir et que vous soyez guéri. Peu importe à quel point les mauvais comportements sont enracinés, je vous dis, avec l'autorité de la Sainte Parole de Dieu, que votre situation n'est pas du tout irrémédiable. Si vous pouvez écouter mon témoignage qui se trouve sur Internet, eh bien, vous vous trouverez presque des saints à côté de ce que j'étais. Avec l'Évangile, vous pouvez être totalement purifié. Avec l'Esprit Saint, vous pouvez être fortifié. Avec Jésus-Christ, vous pouvez être transformé. Avec la Sainte Parole de Dieu, vous pouvez être saint. Si vous êtes mort avec Christ, ne serez-vous donc pas aussi élevé avec lui? Nous dit Romains chapitre 6, versets 4 à 8. Si vous avez été crucifié avec Jésus-Christ, n'est-ce pas la personne de Christ qui vit en vous maintenant avec toute sa puissance purificatrice? Notez Galates chapitre 2, verset 20. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a offert pour vous, pour moi, comment pourrait-il ne pas vous donner toutes choses avec lui dans sa grâce infinie? Romains chapitre 8, verset 32. Oui, chers amis, Dieu pardonne encore. Alléluia. Dieu donne de la force encore plus. Dieu peut vous transformer, même si cela prend du temps, même si cela semble incertain, mais si c'est douloureux peut-être, il nous transforme un petit pas de gloire à la fois. Gloire soit donc rendue à Dieu, notre Père céleste. Amen. Et maintenant, j'aimerais simplement que nous puissions prier ensemble. Et après, j'essayerai de vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé. Prions. Père céleste, nous élevons nos cœurs, nous les tenons levés vers le Seigneur, hors des ténèbres vers la lumière, hors du désespoir vers la joie, hors de la mort vers la vie, hors de la servitude vers la liberté, après la nuit l'aurore, après l'hiver le printemps, après la colline du crâne, il y a le jardin d'Arimathée, après le vendredi, il y a le dimanche. De même que nous avons commémoré le cruel supplice du Sauveur, ainsi que sa mort solitaire, le drame de l'amour vaincu, vaincu par la haine et le juste, sauvagement piétiné par l'ennemi, et bien de même, préparons-nous maintenant à fêter avec sérieux et allégresse le merveilleux triomphe du ressuscité, du glorifié victorieux. Tout cela, il l'a fait pour nous racheter et pour nous sauver. Amen. Et maintenant, rappelez-vous que Dieu vous aime, oh oui, et il est de mon devoir de vous aimer également, vous qui êtes ses enfants, et je vous enlace tous maintenant, et je vous dis, en vous embrassant avec tout mon amour, je vous dis oui, je vous aime tous, et donc soyez bénis en et par Jésus-Christ. Et maintenant, essayons de voir si on peut faire fonctionner ces vieilles chansons d'un lointain passé, 1954. J'étais un tout jeune homme quand j'avais enregistré ça avec un Revox à bande. Figurez-vous. Bien sûr, ensuite j'ai transmis ça sur des cassettes et plus tard sur des CD. Et tout ça a perdu beaucoup de sa netteté. Et parfois il y a même carrément des terribles ratés. Eh bien, écoutons quand même, car il y a le Saint-Esprit dans ces chants d'autrefois. Et comment ?
The things I say and doubt.